Bonjour, je suis Mickaël et vous écoutez le podcast numéro 4 de RG Design, l'émission officielle de l'agence webmarketing rgdesign.fr. Le podcast de RG Design a pour mission de vous donner les conseils et bonnes pratiques pour développer votre entreprise grâce à Internet. Vous retrouverez dans le podcast des experts du web et entrepreneurs dans le domaine de la communication marketing, la programmation et le développement, la production et gestion de contenu, mais aussi la création de sites internet ou la gestion d'infrastructures et de réseaux. Ces experts nous dévoilent leurs meilleurs conseils et pratiques qu'ils utilisent au quotidien pour réussir sur Internet. Si vous venez tout juste de découvrir notre podcast, je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes du podcast RG Design. Aujourd'hui, nous accueillons Carole Chocron, experte en Google Ads SIA, réseaux sociaux et fondatrice de l'agence Comenshock. Carole aide les entreprises à développer leur notoriété, leur positionnement, leurs prospects et leur chiffre d'affaires par une stratégie digitale basée sur la réflexion et l'optimisation, grâce à différents leviers comme Google Ads, Google Analytics, Tag Manager, Facebook Ads, LinkedIn Ads ainsi que Instagram Ads. J'ai voulu interviewer Carole pour en savoir plus sur le fonctionnement du SIA et les bénéfices que cela peut apporter à une entreprise, car depuis le début de la crise sanitaire, les entreprises se tournent de plus en plus vers les médias interactifs et les internautes sont maintenant une cible privilégiée par les entreprises. De nombreuses méthodes existent pour attirer l'attention des clients qui ont acquis de nouveaux comportements et réflexes. Le référencement est ainsi devenu le moyen de conquérir le public, mais la question se pose aux entreprises de comment le faire efficacement et surtout ressortir de la jungle des sites. On trouve de nombreux conseils sur les techniques de publicité en ligne, mais ces conseils se révèlent parfois difficiles à mettre en œuvre. Quand j'ai échangé avec Carole pour lui proposer de faire un épisode de podcast avec nous, on a tout de suite convenu de faire un point sur les bonnes pratiques du SIA, mais je ne savais pas comment nous allions pouvoir faire le lien direct avec l'actualité. Après notre discussion, on a finalement décidé de vous parler des perspectives d'évolution de la publicité en ligne en 2021, car la collecte de données est plus que jamais au cœur des débats. Concrètement, on a vu dans cet épisode les bonnes pratiques de la publicité sur Google et les pièges à éviter. On a parlé ensuite du contexte actuel de la publicité qui évolue, avec des changements d'algorithmes fréquents, une concurrence d'annonces accrue et les risques de perdre le contrôle de son budget et de sa rentabilité. Enfin, nous avons évoqué les opportunités actuelles et leviers de performance qui permettent de faire vivre une expérience à l'internaute et de booster son business. Je vous propose maintenant d'écouter ma conversation avec Carole pour en savoir plus sur la publicité sur Google.
Bonjour Carole.
Bonjour Mickaël.
Je suis très ravi de t'avoir aujourd'hui sur notre podcast. Et voilà, comme je l'ai dit précédemment, voilà, moi aujourd'hui, j'aimerais pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne le SIA un peu plus en détail et surtout expliquer à notre audience quels sont les bénéfices que cela peut apporter de mettre en place une stratégie SIA. Je te propose d'abord qu'on parle un petit peu de toi et de Comenshock et ensuite on rentrera directement dans le vif du sujet si ça te va.
D'accord. Bah, écoute, déjà, je te remercie pour l'invitation. Je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet, un sujet effectivement qui est très vaste d'ailleurs. Et ouais, on va essayer d'en parler et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, écoute, moi, pour Comenshock, en fait, moi, les choses se sont faites assez naturellement. Il y a eu une évolution. J'ai d'abord, moi, commencé en tant qu'entrepreneur parce que je suis rentrée dans le monde du digital dans les années 2009 en créant une plateforme de vidressing sur Internet. On était les premiers en la matière. Puis ensuite, j'ai fondé un deuxième site e-commerce. Du coup, c'est vrai que tout ce qui est réseaux sociaux, Google, la communication, la digitalisation, je m'y suis mise il y a un moment. Et de fil en aiguille, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai acquis une expertise professionnelle sur ces canaux-là, sur ces leviers d'acquisition, et puis aussi une expertise en tant que chef d'entrepreneur. Donc, j'ai une vision comme ça un petit peu transverse. Et du coup, j'ai proposé en fait mes services à quelques entrepreneurs pour les aider justement à monter leur société et puis, puis à communiquer sur les réseaux sociaux et puis après en faisant des campagnes Google. Et de fil en aiguille, comme ça, j'ai monté mon agence et je me suis vraiment lancée, je me suis spécialisée là-dedans dans le service. Donc voilà, en étant entrepreneur, en fait, j'ai vraiment, je connais les problématiques qui sont tous les problèmes de visibilité, d'acquisition de trafic, de rentabilité, de satisfaction client qu'un entrepreneur peut avoir. Et vraiment, on est vraiment partenaire avec les clients.
D'accord, bah écoute, en tout cas, ça c'est super parce que ça te permet effectivement d'avoir cette approche terrain et une approche aussi stratégique par ton
Exact.
travail quand tu les aides dans le cadre de campagnes spécifiques, mais aussi de faire un petit retour en arrière quand toi tu étais aussi entrepreneur et bah, d'avoir vraiment une vision plus proche de ce qu'ils peuvent vivre au quotidien.
Tout à fait. C'est
Ok.
la valeur ajoutée.
Tout à fait, ouais. Bah écoute, c'est super. Je te propose à présent de parler un peu plus du sujet en question. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le SEA, éventuellement définir ce que c'est que l'acronyme, parce que SEA, ça parle peut-être pas à tout le monde.
En fait, SEA, c'est les initiales de Search Engine Advertising. En fait, c'est donc la publicité payante sur Google Ads, tout ce qui est référencement payant. Contrario du SEO qui, lui, est le référencement organique et qui n'est pas payant, enfin, hormis évidemment la prestation du prestataire, mais qui se fait par des liens naturels. Le référencement payant, on achète en fait des mots-clés sur Google Ads ou des emplacements pour se positionner.
Ok, donc ce qui fait vraiment la distinction, si je comprends bien, c'est que d'un côté, en fait, on est sur de l'organique, donc on ne paye pas, on a des actions
Ouais.
spécifiques, et de l'autre côté, on paye pour avoir une visibilité via les annonces que propose Google, c'est bien ça?
Exact. Ouais, ce sont les quand on tape une requête sur les moteurs de recherche, on a des annonces sponsorisées comme ça qui arrivent en haut de page avant les annonces organiques.
D'accord. Et du coup, c'est une approche qui est complémentaire au SEO? Ou c'est quelque chose qui est distinct de quelle manière en fait c'est organisé en fait
Alors,
pour une
c'est
entreprise.
complémentaire et distincé les deux. En réalité, le premier objectif pour une entreprise quand elle fait du SEA, c'est d'avoir de la visibilité, de la notoriété, de pouvoir se positionner directement sur les moteurs de recherche. Et en général, il est nécessaire de faire du SEO pour obtenir ce positionnement de façon organique, mais le SEO, il prend du temps, ça prend du temps. Donc, quand une entreprise est un peu pressée ou qu'elle veut du résultat direct ou même tester un produit ou un service, en faisant du SEA, en payant ses emplacements ou ses mots-clés, on va arriver à se positionner dès les premières semaines. Donc, du coup, on commence souvent par faire du SEA et du SEO en même temps. Et puis, le SEA va nous permettre de travailler directement. Et puis, au fur et à mesure, quand le SEO va avoir son impact et va arriver à nous positionner sur certains mots-clés en bonne position, la position qu'on souhaite dans les premières pages, bah, effectivement, on peut abandonner progressivement le SEA. Mais maintenant, c'est complémentaire parce que c'est un positionnement qui se fait sur des mots-clés précis que l'on choisit. Donc, on ne va peut-être pas pouvoir se positionner en SEO sur tous les mots-clés. Du coup, c'est un choix à faire, une stratégie donc qui peut être ou distincte ou complémentaire. Ça dépend vraiment.
D'accord. Du coup, si une entreprise en fait, décide de mettre en place une campagne de publicité sur les moteurs de recherche, qu'est-ce qui peut la motiver en termes d'objectifs, en termes d'attentes pour aller plus vers le SEO que le SEA, ou alors effectivement commencer par les deux pour vraiment avoir une visibilité 360 degrés, au final, à la fois sur la partie organique que sur la partie payante.
En fait, si elle est pressée ou pas, premièrement, puisque comme on a dit, donc le premier objectif, c'est vraiment avoir un positionnement et acquérir de la visibilité. Quand une entreprise crée un site Internet, elle existe bien sur la toile, mais par contre, elle n'existe pas, entre guillemets, sur les moteurs de recherche. Quand une personne tape, par exemple, je prends n'importe quoi, un site e-commerce de chocolat, si je tape vente de chocolat, je vais pas forcément tomber sur le site du client s'il ne s'est pas positionné, il ne s'est pas référencé. Donc, il y a vraiment cet intérêt de positionnement. pour faire exister le site, pour lui donner de la visibilité. Après, on a d'autres objectifs qui sont des objectifs E+ de conversion. C'est-à-dire pour un site e-commerce, ça va être la vente. Pour une entreprise de service, ça va être du lead, c'est-à-dire recevoir des appels ou s'inscrire à un formulaire de contact ou à une newsletter. Et donc ça, ben les annonceurs, ils veulent du résultat rapidement. Donc du coup, on passe par du SEA. On a d'ailleurs souvent maintenant une grande tendance dans le SEA, c'est de faire des campagnes de lead pour des entreprises qui travaillent avec des commerciaux ou de la téléprospection. Ils ont besoin en fait de remplir des listes de prospects pour donner aux commerciaux, voilà, avoir des listes de contacts que les commerciaux puissent après rappeler. Et donc ça, c'est vrai que le SEA, c'est un très fort levier pour avoir ces prospects-là. Donc voilà, c'est de la visibilité, mais aujourd'hui, beaucoup de conversions aussi.
Donc c'est vraiment en fait une question de temporalité et une question de performance au final. Hein. C'est-à-dire Exactement. Que si vraiment on veut rapidement avoir des résultats, on va plutôt aller vers le SEA. Oui. Et si on veut de la complémentarité et vraiment stabiliser sa visibilité, on fait du SEA et du SEO.
Oui, tout à fait.
Très bien. Mais alors du coup, j'imagine que bon, si on décide de mettre en place une stratégie de SEA, il y a certainement des prérequis pour que la stratégie soit bonne et des bonnes pratiques, notamment en termes de mots-clés, de trafic et autres. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
Alors écoute, effectivement, avant de se lancer, il y a toute une préparation, je pense, pour que les campagnes aient une chance de fonctionner. Alors, c'est vrai que la base du SEA repose sur le choix des mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Ça, c'est pour les campagnes search. Et puis, quand on fait du display, c'est sur les emplacements où on veut que nos publicités soient diffusées. Donc, il y a toute une réflexion déjà pour les annonceurs à faire sur ces mots-clés. Et cette réflexion, elle doit se faire d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on doit réfléchir à la place du client. On ne doit pas dire « moi, je veux me positionner sur tel ou tel mot-clé ». On doit essayer de réfléchir à ce que le client, quand il va taper une requête, en fait, une problématique, quel mot-clé, lui, il va taper pour pouvoir trouver sa réponse et pour pouvoir, du coup, nous trouver, enfin, trouver l'annonceur. Donc, il est très important déjà de réfléchir en mode client à cette liste de mots-clés. Mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui le prérequis, le plus important, c'est-à-dire celui où on doit le plus réfléchir, parce que Google nous fait beaucoup de recommandations automatiques, où il nous propose des listes de mots-clés justement en référence avec son site. On a des plateformes aussi qui nous proposent des mots-clés avec les volumes de recherche, les prix du CPC. Donc, la réflexion la plus importante à faire pour un annonceur, elle est différente. Elle est en fait sur… souvent, on a des clients qui viennent et qui nous disent « voilà, je veux faire du SEA », mais ils n'ont pas réfléchi au fait de savoir s'ils étaient prêts pour faire du SEA. Il faut vraiment une préparation et elle se fait à deux niveaux. Tout d'abord, elle se fait au niveau d'une réflexion sur son offre et sur ses outils. En réalité, il faut que les annonceurs fassent vraiment une étude de marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles réfléchissent à leurs produits, aux avantages de leurs produits, il faut qu'elles connaissent leur concurrence, qu'elles réfléchissent à leur panier moyen, savoir aussi quel est le prix que l'on est prêt à payer pour une conversion, savoir si son site est clair, s'il est attrayant, s'il est facile de navigation. Si on ne réfléchit pas à toutes ces problématiques, en fait, on risque de se lancer trop rapidement dans le SEA et de dépenser beaucoup d'argent pour rien. Si on ramène du trafic sur son site et que tout n'est pas clair, bien, les personnes, elles vont venir et puis elles vont repartir. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Définir aussi des objectifs que l'on veut atteindre. On parle souvent de KPI, donc c'est ça, ce sont les indicateurs de performance. Il faut réfléchir à des objectifs, savoir aussi comment mesurer ces objectifs pour progresser et pour s'améliorer. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, il y a aussi un prérequis qui est très important, c'est au niveau de la clientèle, connaître sa clientèle. C'est-à-dire que savoir ce qu'elles aiment, savoir quel est son besoin, quelle est la problématique des clients, quels sont leurs centres d'intérêt, leurs habitudes. Et il y a vraiment une étude comportementale à faire que les annonceurs doivent prendre en compte, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de monter des campagnes qui vont être adaptées, de cibler des personnes vraiment qualifiées et de pouvoir optimiser des campagnes plus rapidement que si on ne le fait pas. Voilà, donc ça, c'est très important parce que souvent, on voit des clients qui viennent et qui n'ont pas cette démarche, qui disent, voilà, je veux des appels, je veux vendre, mais il y a tout un processus à faire. Et on peut se lancer comme ça rapidement dans le SIA, mais voilà, pour avoir des chances de fonctionnement, c'est vrai qu'il faut faire les choses progressivement et ne pas brûler les étapes.
Si je peux me permettre, Carole, de résumer au final, quand on veut faire une bonne campagne de SIA, il ne faut pas se précipiter. Et vraiment, il y a trois points qui sont clés. C'est au final une bonne connaissance de son marché, de ses produits, de ses services, de la concurrence, une bonne connaissance de sa clientèle ou de ses futurs clients. Et, ouais. Et aussi, disons, avoir déterminé des objectifs qui sont atteignables et des objectifs qui sont spécifiques à son entreprise et qui sont adéquats par rapport à l'entreprise à l'instant T. En plus de, ce qui paraît assez logique au final, hein, d'avoir un site propre avec des pages d'atterrissage propres pour que le potentiel prospect qui tomberait sur l'annonce se retrouve sur un site qui correspond à sa requête.
Oui, effectivement, parce qu'on dépense quand même de l'argent dans le SIA. Hein. Il y a un budget, on achète des mots-clés, on achète des emplacements. Donc voilà, il faut pour être rentable, il faut faire les choses correctement et proprement. Exact, tu as bien résumé.
Ok, bon, très bien. Du coup, moi, j'ai une question, une autre question concernant le SIA. Est-ce qu'aujourd'hui, son importance sur les moteurs de recherche, qu'on peut le voir avec les requêtes qu'on peut faire sur Google, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces. Est-ce que c'est un levier d'acquisition, au final, incontournable dans une stratégie de communication au jour d'aujourd'hui?
Écoute, je pense que déjà, effectivement, il y a beaucoup plus de… Aujourd'hui, les entreprises, elles ont pris conscience qu'il fallait se digitaliser, et encore plus aujourd'hui dans le contexte actuel… du Covid-19. Il y a de plus en plus de sites qui sont créés. D'ailleurs, il y a une facilité d'accès à créer des sites. Il y a même des subventions pour aider les entrepreneurs. Donc, ce qui veut dire que il y a plus de monde sur le net, il y a plus de monde sur la toile, il y a plus de sites, il y a plus d'annonces, il y a plus de concurrence. Et effectivement, si on veut être dans la course, il faut faire du SIA. En plus, aujourd'hui, on est quand même dans une communication multicanale, c'est-à-dire que nos prospects vont se retrouver sur plusieurs plateformes. Ils vont se retrouver autant sur Google, ils vont se retrouver sur Facebook, sur LinkedIn, ils vont se retrouver sur des plateformes tiers et partenaires. Donc, du coup, il faut essayer d'aller les séduire de partout. Et en fait, chaque levier, chaque canal, et fait partie d'un maillon, en fait partie d'une chaîne. Et chaque levier contribue à la conversion. Donc aujourd'hui, par exemple, une personne, elle va avoir une pub d'un annonceur sur Facebook, elle ne va pas forcément acheter directement. Puis après, elle va le voir sur Google, et elle va se dire, tiens, mais je connais cette marque. Et donc, à ce moment-là, elle va être beaucoup plus intéressée, elle va rentrer dans le site parce qu'elle aura l'impression déjà de connaître sa marque. Donc oui, pour moi, le SIA, c'est un levier incontournable et qui fait partie d'autres leviers d'acquisition.
D'accord, donc c'est vraiment un élément qui permet en fait d'optimiser les points de contact qu'on peut avoir avec un potentiel client au final, hein, un peu comme Facebook, un peu comme d'autres plateformes au final que tu as précédemment donc citées. Qui permet en définitive d'attirer un prospect et de le suivre tout au long de son parcours sur le web pour au final essayer de l'attirer vers l'entreprise en question.
Oui, exact. Et puis aussi, je voulais dire, il y a quand même aussi un point qu'il faut prendre en compte, c'est la montée en puissance des algorithmes. C'est-à-dire que les algorithmes de Google et d'ailleurs se nourrissent de bases de données énormes. Et en fait, plus il y a comme ça de monde sur la toile, plus il y a d'annonces, d'internet, de trafic, eh bien, il y a de plus en plus de données. Donc, les algorithmes sont très, très précis de nos jours. Et ce qui veut dire que quand on tape une requête sur les moteurs de recherche, on fait une recherche, on arrive vraiment à trouver la bonne solution et la bonne entreprise directement dans la première page, voire même des fois dans les premières annonces. Donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un intérêt pour les annonceurs de se battre et d'être positionnés correctement si elles veulent avoir une chance d'être visibles. Donc, voilà, tout ça concourt au fait que le SIA, c'est de toute manière, c'est une boutique en ligne. C'est vraiment, voilà.
Et justement, Carole, quand tu dis que donc c'est indispensable le SIA, on voit aussi la facilité avec laquelle on peut faire les choses aujourd'hui sur le web, en particulier sur tous les outils Google. Techniquement, aujourd'hui, est-ce qu'un annonceur peut se lancer seul, dans la mesure aussi où, quand on regarde un petit peu comment est faite la plateforme Google AdWords, elle a l'air relativement intuitive. Donc, c'est plutôt facile, je pense, même pour quelqu'un qui n'est pas très, très technophile, de se mettre dessus et d'essayer de lancer tes campagnes tout seul. Est-ce qu'il y a des pièges peut-être à éviter concrètement, quel est ton avis là-dessus?
Alors, effectivement, Google a simplifié certaines campagnes énormément. Enfin, la tendance est à l'automatisation des tâches. Ça passe par l'automatisation des campagnes, ça s'appelle les campagnes intelligentes. C'est-à-dire que finalement, en répondant à quelques questions, un annonceur peut mettre voilà, son objectif, son budget, où il se situe, quelle personne il veut cibler. Et en fait, Google lui propose automatiquement une campagne adéquate. Et donc, oui, il peut se lancer très rapidement. Il peut, c'est d'ailleurs des avantages parce qu'un annonceur peut tester un produit, peut tester un service. Et puis, ça lui permet aussi de comprendre comment le SIA fonctionne parce que, au final, en testant lui-même, en travaillant lui-même ses campagnes, il va comprendre comment ça fonctionne. Et puis, si un jour il veut passer à une étape supérieure et prendre une agence, et ben finalement, il comprendra. Les choses, il saura de quoi on lui parle et puis il pourra même challenger d'ailleurs cette agence sur certains points qu'il aura vus. Donc oui, en plus tout au long de la gestion d'une campagne, Google fait des recommandations automatiques, il peut nous permettre à définir des stratégies d'enchères intelligentes, il peut nous faire des recommandations de mots-clés. Donc c'est vrai qu'il y a une facilité d'accès à ces campagnes. Mais maintenant, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que les recommandations que fait Google, elles sont forcément pertinentes pour Google et elles ne sont pas toujours pertinentes pour l'annonceur. Si je donne un exemple, souvent Google préconise à ses clients, une fois qu'ils sont lancés, d'augmenter le budget en disant par exemple, regarde, voilà, tu t'es lancé, tu as fait des conversions, tu es content, ça marche, mais finalement, regarde, ton budget, il est limité, on n'arrive pas avec ton budget à te diffuser toute la journée sur les moteurs de recherche, donc tu perds des opportunités. Et par là, c'est dommage, alors augmente ton budget, on va augmenter les conversions. Oui, mais c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que quand on augmente le budget, on n'augmente pas forcément les conversions, ce qu'on va augmenter, ça c'est sûr, c'est le nombre de clics. Et nous, ce qu'on veut en tant qu'annonceur, ce n'est pas d'augmenter le nombre de clics pour augmenter le nombre de clics, c'est d'augmenter le nombre de bons clics et le clic pertinent. Et pour avoir un clic pertinent, on passe pas automatiquement par une augmentation de budget. On passe par des paramétrages qui se font, qui permettent déjà de travailler son clic, de travailler ses mots-clés, de travailler ses objectifs. Et après, une fois qu'on est arrivé à ce clic qu'on estime pertinent pour nous, on a un beau taux de conversion, alors à ce moment-là, on peut augmenter le budget. Donc, il y a comme ça des recommandations pour lesquelles, si on est vraiment profane et qu'on n'a pas d'expertise, on n'a pas d'expérience, il est très facile de suivre à l'aveuglette les recommandations et puis au final, de dépenser beaucoup d'argent alors qu'on pourrait l'éviter. En plus, c'est vrai qu'il y a des changements très réguliers au niveau des stratégies, au niveau des campagnes. Google change des choses rapidement et une personne qui un annonceur n'a pas le temps de faire des veilles toute la journée ou tous les jours. Et du coup, pour lui, il ne va pas se tenir au courant. Et puis, il n'aura pas l'expérience non plus. Une agence qui travaille toute la journée sur des annonces, sur des secteurs d'activité différents, va forcément… savoir optimiser. Donc, je pense que dans un court terme, oui, on peut se lancer et c'est super bénéfique parce que vraiment, l'annonceur va apprendre les tenants et les aboutissants de la campagne SIA. Mais sur du moyen et long terme, se faire accompagner, ça permet d'être plus rentable.
Oui, ouais, si je comprends bien, techniquement, c'est faisable dans un premier temps, en bien évidemment ne perdant pas son objectif de vue, qui est au final d'avoir de bons clics, un trafic qualifié, et faire attention à ce que peut proposer Google, qui parfois est un peu éloigné de l'objectif de l'entreprise.
Exact. Bon, Google est une entreprise aussi, donc le profit pour lui, c'est sa rentabilité, c'est important. Et puis après, c'est comme dans tout corps de métier, hein. Voilà, l'expertise vaut bien plus qu'une personne qui se lance seule, mais c'est tout à fait faisable.
Ok. Alors, moi, je voulais évoquer autre chose aussi avec toi, Carol, parce qu'on entend parler de plus en plus de collecte de données. Alors, je voulais faire un petit focus avec toi sur le SIA en 2021, et en particulier donc sur cette thématique de collecte de données qui est de plus en plus au cœur des débats. Et d'ailleurs, de ce qu'on peut voir en faisant un petit peu de veille sur Google, on se rend compte que cette donnée, cette collecte de données, elle se fait de plus en plus rare parce que Google limite de plus en plus l'accès justement à ces données de requêtes de recherche. Notamment au niveau des cookies qui permettent de récupérer donc ces informations liées aux visites sur un site internet d'un internaute. Et Google Ads accentue aussi sa politique d'automatisation avec le machine learning, comme tu le citais précédemment. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de changements algorithmiques. Alors ça a déjà été le cas dans le passé, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent. On voit qu'il y a de plus en plus de concurrence, notamment sur certaines requêtes, où on se rend compte qu'on a 3-4 annonces en haut, 3-4 annonces en bas, on a du Google Shopping, on en a un peu de partout. Aujourd'hui, il y a la crise sanitaire qui n'arrange pas forcément les choses. Alors, vu ce contexte un peu particulier, est-ce qu'il est possible aujourd'hui quand même de néanmoins arriver à garder le contrôle sur son budget, sur son taux d'entrabilité, son prévisionnel, au final, tous ces indicateurs de performance budgétaire et commerciaux pour une entreprise qui veut se lancer ou qui est déjà sur le SIA et qui veut accentuer ses efforts là-dessus?
C'est vrai qu'on ait une tendance à l'automatisation. Et effectivement, Google nous enlève aussi pas mal de données. Donc, il est difficile aujourd'hui d'optimiser ces campagnes. Mais bon, tout n'est pas perdu non plus. Hein. Sinon, on arrêterait tout et puis on s'arrêterait. Ce n'est pas aussi l'intention de Google, évidemment. Donc, c'est vrai qu'il y a des changements qui sont assez structurants ces derniers mois, mais qui nous force du coup à s'adapter et à trouver d'autres solutions, à inventer, à créer des nouvelles stratégies. Et bon, là, c'est vrai qu'il y a un temps d'adaptation pour trouver une vitesse de croisière. Alors, on peut encore avoir du contrôle si on accepte justement de jouer le jeu et de s'adapter. C'est vrai que dans le métier, on parle en ce moment de old school et de new school. Alors, dans la version old school, c'est-à-dire jusqu'encore en 2020, quoi, jusqu'encore l'année dernière, encore un peu maintenant, on travaillait de façon très pointue, quoi, très minutieuse sur ces campagnes, de façon très manuelle, très segmentée, où on avait vraiment des enchères précises pour chaque mot-clé. Voilà, c'était vraiment un travail de minutie. Aujourd'hui, il y a une tendance à l'ouverture, aux enchères intelligentes, aux annonces responsives aussi, c'est-à-dire que les annonces responsives, c'est que finalement Google... on lui propose plusieurs. Quand on rédige une annonce, on va proposer plusieurs titres, plusieurs textes, et puis Google va faire un mix de ces titres et de ces textes, et il va proposer la meilleure adéquation entre les deux, la meilleure annonce finalement par rapport au centre d'intérêt et au goût des internautes. Donc, il fait un petit peu son travail, tout seul. C'est de l'automatisation aussi. Mais tout ça, c'est pour laisser du coup travailler les algorithmes. Et donc, dans cette tendance comme ça à l'ouverture, on est ce qu'on appelle la tendance new school. Et il faut jouer le jeu parce que Google, s'il met en place des nouveautés, il faut les utiliser parce que comme ça, il sera content et il nous diffusera. Donc, en fait, il faut essayer de jongler aujourd'hui avec ces stratégies-là, de faire des tests, beaucoup de tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Maintenant, si on veut parler proprement dit, tu disais, est-ce qu'on peut garder un contrôle sur le budget? Alors, effectivement, tout ce qui est automatisation nous fait perdre le contrôle sur le budget et sur les enchères. Mais la façon dont on est diffusé sur Google, ce n'est pas que le budget et les enchères. C'est aussi un critère qui s'appelle le quality score, c'est-à-dire que c'est le classement de nos annonces qui va faire en sorte de savoir si on est bien ou pas positionné sur les moteurs de recherche. C'est-à-dire que Google va prendre en compte la pertinence de nos mots-clés, la pertinence de nos annonces, savoir si notre offre, elle est attrayante, si notre site est bien fait. Et c'est sur ça, en fait, qu'on va pouvoir jouer aujourd'hui pour garder du contrôle. Donc, on en revient à ce qu'on disait au début, aller doucement, travailler vraiment son offre, son site et sa proposition commerciale pour gagner sur ce quality score, pour être diffusé sur Internet correctement, sur les moteurs de recherche, et pour faire diminuer en fait son CPC, ses enchères. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Il faut inventer une nouvelle stratégie. Il y a une autre façon aussi de travailler qui est le marketing persona. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, notre produit que l'on veut vendre, il peut s'adresser à des profils clients qui sont complètement différents. Et donc, il va falloir essayer de raisonner comme ça par rapport à un profil client. On va essayer d'adapter notre offre, on va essayer d'adapter notre accroche, notre landing page par rapport à ces clients-là et finalement faire des campagnes, non plus par produit, mais plutôt des campagnes par profil client. Et tout ça nous permet de garder un petit peu la main et de pouvoir contrôler notre budget. Donc voilà, il faut se réinventer, il faut s'adapter et surtout faire des tests.
D'accord. Donc là, en résumé de tout ce que tu m'as dit, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'au final, on a plutôt intérêt à aller dans le sens du vent, donc du coup dans le sens de Google, en prenant en compte ces différents changements et en s'en servant plutôt pour apporter plus de qualité en termes d'approche publicitaire, pour offrir vraiment une expérience la meilleure possible aux internautes qui vont taper une requête. Et lié à ton approche donc New School et notamment ce que tu as dit sur les marketing persona, donc au final, d'avoir ce qu'on appelle en anglais là, une approche customer-centric, donc centrée sur le client au final, centrée sur la typologie de clientèle qu'on peut avoir, donc en fonction des différents clients qu'on peut avoir, on peut avoir autant de clients que de campagnes, ce qui permet… j'ai tendance à dire presque d'avoir une meilleure performance parce qu'au final on n'a pas toujours les mêmes clients sur une typologie d'entreprise et c'est intéressant parce que là on arrive à s'adresser à différentes cibles en leur adressant un message personnalisé qui leur correspond donc qui permet potentiellement d'améliorer les performances en termes de finalité qui est la commercialisation d'un produit ou la génération de leads.
Oui, exact. De toute manière, c'est la tendance entre la puissance des algorithmes, entre l'accroissement du trafic sur Internet, la concurrence aussi, il faut trouver des points qui vont nous différencier. Et c'est vraiment en connaissant sa clientèle et en travaillant sur ces points-là qu'on va y arriver, avoir un message vraiment personnalisé. Exact.
J'ai une petite question là-dessus sur les opportunités selon toi actuellement et les leviers de performance qu'on pourrait avoir en 2021 pour booster son business. Alors, ça serait intéressant aussi que tu puisses nous faire un micro-focus sur ton expérience, toi, en tant qu'ancienne e-commerçante, pour comprendre un petit peu voilà, les petits leviers ou les petites opportunités sur lesquelles on peut jouer éventuellement pour arriver à sortir son épingle du jeu par rapport à cette concurrence accrue, effectivement.
Écoute, on en revient toujours un petit peu à ça, qui est la question de bien connaître son produit, de bien connaître ses clients et de travailler sur ça. Et surtout de travailler sur la qualité. Donc aujourd'hui, on va vraiment accentuer sur son offre. On va aussi essayer de séduire le client, de lui donner de l'émotion. On va essayer de travailler correctement ses créatifs, que ce soit ses visuels, parce que justement, dans tous les nouveaux leviers d'acquisition, on fait une grande place à tout ce qui est visuel, à tout ce qui est vidéo. Donc, il y a beaucoup plus de campagnes vidéo maintenant qui sont disponibles et qui peuvent se faire hein, sur YouTube, sur plein de plateformes. On a des nouvelles campagnes qui sont des galeries ads, en fait, qui sont des formats publicitaires qui marchent pour les remarketing et la notoriété et qui se déclenchent sur les mobiles. Donc, il faut aussi, évidemment, penser vraiment à faire les sites en version mobile. C'est très important. Des campagnes en version mobile, ça, c'est primordial. Et puis, voilà, travailler vraiment, donc je disais, les galeries ads qui permettent de s'intégrer dans les annonces textuelles, dans les campagnes search, et d'avoir une véritable expérience immersive. Donc, voilà, proposer à ses clients par la vidéo, par l'image, de l'émotion, vraiment essayer par le visuel qu'il ait vraiment envie du produit. Et ça, bah c'est ce qui est très important. Voilà, je pense que ce sont les leviers d'acquisition qu'on peut avoir pour demain.
Encore vraiment, plus, j'imagine.
Une grande partie sur la... ouais.
Encore plus, j'imagine, Carole, avec ce qui se passe actuellement, la difficulté de pouvoir se rendre dans les centres commerciaux. Donc, du coup, essayer de faire vivre une expérience à travers le net où les gens sont de plus en plus connectés et ce besoin de vivre, d'avoir une émotion en fait, par rapport à ce qu'on peut voir, ce qui va déclencher plus l'achat, un peu comme ce qu'on peut avoir d'événements dans les centres commerciaux, dans les magasins, les boutiques et autres. C'est un peu ça l'idée au final.
Oui, c'est un peu ça. Hein. Il faut voilà, c'est bon, une part de rêve pour les produits qui vont nous faire, qui sont dans l'évasion, qui sont dans le sport ou qui sont dans les voyages. Maintenant, après, il faut aussi montrer aussi aux clients les produits. En fait, il faut montrer que nos services ou nos produits vont vraiment répondre aussi à des problématiques. Donc, ne pas hésiter vraiment à rentrer dedans, à faire de la pédagogie, à faire de l'éducation sur les produits. Et voilà, et tout ça se met en scène par la vidéo, par les visuels. Et on a les campagnes derrière, tous des formats de campagnes qui sont mis en place par Google pour justement nous permettre de diffuser ces expériences, ces émotions-là.
Ok, bon bah écoute, super tout ça. J'espère que ça donnera suffisamment de matière à réflexion à notre audience, parce que toutes ces précieuses réponses sont importantes, surtout vraiment, je le répète, hein, par ces temps de crise et ces temps de concurrence accrue, où on a besoin de pouvoir se démarquer de la bonne façon. Moi, j'aime bien finir par une dernière question que je pose souvent à mes invités. Pardon. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui aujourd'hui se lance sur le web, toi en tant qu'ancienne entrepreneur, et même de manière plus large par rapport au profil de personnes avec qui tu travailles, les entrepreneurs du quotidien, pour qu'ils puissent essayer de se démarquer encore une fois sur le web.
Écoute, c'est une question compliquée parce que des conseils, il y en a effectivement beaucoup. Alors, quels sont les conseils pour se lancer dans le web ? Écoute, déjà, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que la digitalisation, c'est vraiment quelque chose de primordial. On le sait, hein, on le sait depuis hier que la digitalisation, c'est le monde de demain. Donc, il faut se lancer. Maintenant, comme on a dit, il ne faut pas se lancer n'importe comment. Il faut acquérir une certaine mentalité. C'est vraiment travailler sur Internet, c'est avoir un mindset digital. Il faut avoir de nouveaux automatismes. Il faut penser les choses différemment. Et il ne faut pas hésiter aussi à éduquer ces équipes de travail, je pense les équipes commerciales, même les équipes administratives, pour que en fait tout le monde puisse aller dans le même objectif et travailler vraiment de façon différente. Donc quand on n'a pas l'habitude du digital, eh ben c'est important de s'informer, de se documenter et puis du coup de s'entourer de bonnes équipes. Faut faire confiance aux professionnels et il faut pas hésiter. Voilà, à leur demander des conseils et avancer avec eux. C'est ce que je pourrais dire de toute manière. Après, un entrepreneur, quel qu'il soit, qui se lance dans le digital ou pas, c'est quelqu'un qui doit évoluer constamment. Un entrepreneur, il a tout le temps des challenges. Il faut qu'il se renouvelle, il faut qu'il se forme constamment. Donc voilà, ça fait partie de son travail et c'est aussi la joie de l'entrepreneuriat d'avoir tout le temps du renouveau et de bouger tout le temps. Donc voilà, et ne pas avoir peur, ça remet de patience et puis foncer. Voilà ce que je peux dire.
Ok, non, mais écoute, c'est parfait pour clôturer cette interview. Écoute, Carole, je te remercie pour ton partage d'expérience, vraiment oui, tes précieux conseils et toutes les réponses que tu as pu nous apporter. Je souhaite à toute notre audience et toutes les personnes qui écouteront ce podcast, en tout cas qui sont des entrepreneurs en devenir ou qui sont des entreprises actuellement, qui réfléchissent à se digitaliser plus, à faire des campagnes de référencement payantes ou pas d'ailleurs, plein de succès et puis un bel avenir dans le digital. Voilà, merci encore Carole.
J'étais ravie.
Également, j'espère qu'on se retrouvera prochainement. Et puis, une très bonne fin de journée à toi. Et puis, à nos auditeurs et également.
Voilà, bonne chance à tous. À bientôt.
À bientôt, merci.
Carole, à nouveau merci pour cette interview et pour nous avoir partagé ton expérience sur le référencement payant et les stratégies publicitaires sur Google. Vous pouvez retrouver Carole sur son site internet commentshock.com ou sur sa page Facebook commentshock. Merci à vous pour nous avoir suivis sur cet épisode. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et nous mettre 5 étoiles en évaluation ainsi que votre avis. Votre avis nous aidera à nous améliorer, à faire connaître le podcast et pouvoir continuer à vous proposer des interviews avec des experts du web. Aussi, si vous avez besoin d'aide ou le conseil d'experts dans la création de votre site internet, e-commerce ou dans le référencement, je vous rappelle notre adresse rgdesign.fr. À très bientôt sur la chaîne de podcast de RG Design.